Dieu, la puissance de Dieu, c'est cette puissance de vie. L'homme, alors, qu'est-ce qu'il sait faire ? Ben, il sait la canaliser. Il sait prendre l'énergie que Dieu a créée au niveau de loi physique, etc., pour la transformer, mais il ne sait pas la créer, cette vie. Et pourtant, on essaye, mais la Bible dit c'est le Père qui donne la vie, c'est lui qui ressuscite les morts. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais un exemple que j'aimerais donner, c'est l'exemple du saxifrage. Le saxifrage. Là, je savais, là, je me délecte, là. Le saxifrage. Mes amis, c'est absolument une révélation. Le saxifrage, c'est une sorte de fleur qui pousse dans les rochers. Et alors, vous en avez plusieurs sortes. Et en particulier, elles ont la force de creuser dans les failles comme ça et de prendre la vie, quoi. C'est absolument étonnant où on trouve ce genre de plante. Vous avez aussi l'exemple de l'eau. Alors l'eau, ça peut tout ravager, quoi. C'est plus fort que tout. Vous avez des maisons entières qui l'eau, la puissance de l'eau. Donc on a cette énergie, tout ça, mais connaître la puissance de vie de Dieu. Alors ces exemples sont bien petits, mais pour Dieu, vraiment cette puissance, Dieu veut qu'on la puisse l'expérimenter, la toucher. Et puis c'est pas non seulement une puissance ni une puissance de vie, mais c'est une puissance de vie nouvelle. Et alors, on va y revenir, mais la vie nouvelle, c'est-à-dire que Jésus, la vie de Jésus après sa résurrection, ce n'était pas la même qu'avant. C'est-à-dire, son corps n'était pas le même. Il passait au travers des murs. Vous savez, alors là, c'est quand même intéressant, passer au travers des murs. Je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient ça, et en particulier au niveau des enfants, passer au travers des murs. Et bien, Dieu passait au travers des murs, et en même temps, il mangeait le barbecue. C'est l'évangile de Jean, donc il mangeait du poisson grillé. Alors ça, c'est un drôle de corps ce truc. Ça, entre parenthèses, ça sanctifie la pratique du barbecue dans la Bible comme jamais, quoi. C'est impressionnant. Donc, vous voyez, ce corps de Jésus, ce n'était pas le même. Et il est dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'y a plus de barrière infranchissable pour lui. Il n'y a rien comme barrière. Et donc, là, on se rappelle de l'Épître aux Corinthiens qui parle de nous et qui dit que le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Moi, je trouve ça extraordinaire. Souvent, vous savez, en tant qu'évangélique, souvent on a dit on va sauver des âmes. Dieu veut sauver des âmes. C'est une hérésie grecque, cette expression-là, parce que Dieu sauve tout entier. Il sauve le corps, l'âme et l'esprit. Donc, nous allons... plus tard, j'espère dans longtemps, mais quand même, nous retrouver, nous reconnaître dans nos corps glorifiés. Alors là, ça, c'est la puissance de la résurrection. Donc, ce que Dieu a commencé dans cette puissance de la résurrection, il le continue. Ce qui s'est passé à Pâques, c'est pas qu'un événement historique, si vous voulez, c'est un événement qui a changé l'histoire et il y a une nouvelle vie qui s'est introduite dans ce monde ancien dans lequel nous vivons. Donc, semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite glorieux. Semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, voilà. Donc, dans le verset qu'on veut souligner, il est dit de connaître la puissance de sa résurrection. Alors, connaître cette puissance de Dieu, alors, ça veut dire quoi ? Paul nous parle de cette infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste efficacité par le pouvoir de sa force. Et il dit que cette puissance, elle est pour nous qui croyons. Donc ça, c'est intéressant quand même, parce que cette puissance de la résurrection, elle peut se saisir et se vivre, mais avec la foi. C'est toujours pareil. C'est toujours répété dans les Écritures. On ne peut rien obtenir sans la foi. Et la foi nous permet de nous brancher à la puissance de résurrection. C'est pour ça que c'est tellement important. Quand on sent que notre confiance vacille, et souvent c'est la confiance dans les hommes qui est atténuée, qui est touchée, parce que le but de l'ennemi, c'est toucher la confiance en Dieu. Et quand on commence à perdre cette confiance en Dieu, on perd la capacité d'être de la source et de recevoir cette source d'énergie. Donc il y a des gens qui ont... J'aimerais citer trois personnes, peut-être vous les connaissez, mais alors, il y a un homme, c'est un journaliste anglais, c'était Frank Morrison. je ne sais pas si je prononce bien, mais c'était un journaliste et il a voulu démontrer, comme beaucoup de journalistes aujourd'hui d'ailleurs, que la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu. Alors, cette étrangeté de la résurrection, ça l'a quand même interloqué. Il s'est dit, je vais prouver que c'était du bidon. Et alors, il s'est mis à rechercher en tant que journaliste d'investigation. Et puis, il était un juriste de formation. Et puis alors, il a analysé toutes les circonstances du récit, il a fait ses recherches. Et la Bible dit, attention, celui qui cherche, il finit par trouver. Et bien, il a trouvé. Et à tel point qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Qui a déplacé la pierre ?» Et c'est une apologie de la résurrection. Et au lieu d'écrire un livre pour réfuter la foi, il a écrit un livre pour marquer, il a rencontré le ressuscité. Et d'ailleurs, le dernier journaliste dont on a parlé, Lee Strobel, aux États-Unis, qui a fait son livre sur l'enquête, c'était pareil. Sa femme se convertit, il était journaliste, décidément. Il faut prier pour les journalistes, parce que vous voyez, là, il y en a qui étaient touchés. Et donc, il s'est dit, je vais prouver qu'elle se trompe, quoi. Et puis alors, on sait, dans ce livre, l'enquête, il a fait une enquête scrupuleuse, sérieuse. Ça a été l'occasion d'un livre. Et Jésus l'enquête et il raconte son cheminement. Et puis, là aussi, il rencontre l'évidence de la résurrection de Jésus. Alors, je me suis dit, c'est bien des... Alors, vous avez un autre, l'auteur. Alors, tout le monde connaît le film de Ben-Hur. Ben-Hur, un magnifique film avec une version plus moderne aussi. Donc, c'est Wallace qui a écrit le livre, donc dans les années 1807-1905, l'auteur du livre Ben-Hur, dont s'est inspiré le film. Et donc ce gars-là, ce Wallace, j'ai regardé un peu, mais c'est étonnant comme gars. Il était donc général d'armée, c'était là pendant les guerres de sécession, tout ça, c'était le général d'armée. Ensuite, avocat, diplomate, ambassadeur des États-Unis en Turquie, voilà. Et puis il a voulu prouver l'inexistence. Il y en a quand même qui perdent leur temps, mais il n'a pas perdu visiblement parce que. Il a voulu prouver l'inexistence du Christ, que c'était de la fumisterie, cette résurrection, mais il a été honnête intellectuellement et il a été touché par Dieu, par Jésus-Christ. Et on le voit dans son livre et donc dans son film. Et puis, alors, c'est bien ces exemples anglais, ces exemples américains, mais nous sommes en France. Et en France, eh bien, on va se rappeler ce grand mathématicien, inventeur de la machine à calculer, inventeur physicien, théologien, philosophe Blaise Pascal. Et quand cet homme est mort, on a retrouvé dans le pli de la doublure de son manteau un petit mot, c'est ce qu'on appelle le mémorial, griffonné, qui est à la Bibliothèque de France d'ailleurs. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et là, il rencontre le ressuscité. Et il dit ceci, le lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, autre martyrologue, veille de Saint Chrysostome, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, et un mot au milieu de la feuille, comme ça, feu, fuego, c'est feu, grosse lettre. Et puis ensuite, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment de joie, de paix, Dieu de Jésus-Christ, ton Dieu sera mon Dieu, oubli du monde, de tout hormis Dieu, il ne se trouve que dans les voies enseignées par l'Évangile, grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, joie, 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 pleurs de joie. Je me suis séparé, mon Dieu, me quitterez-vous, que je ne sois pas séparé éternellement. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, Jésus-Christ. Jésus, 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 je me suis séparé de lui, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je ne sois plus jamais séparé. Voilà. Et donc, renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ, à mon directeur. Donc ça a été la rencontre avec le ressuscité. Un peu. Donc nous avons ce genre de rencontres qui sont avec des gens, vous voyez, on peut être très intelligent et rencontrer le ressuscité. Voilà, ce n'est pas une tare de croire en la résurrection. Et voilà, je crois que on a quand même malgré tout des lenteurs à croire, des doutes. Dieu peut-il ? Dieu a-t-il vraiment fait, etc. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, vous savez, dans les théologies modernes, il y en a qui effacent tout ce qui est un peu miraculeux. Un jour au XIXe siècle, un homme avait voulu effacer tout ce qui était d'origine miraculeuse dans la Bible pour que la Bible soit raisonnable. Eh bien, ça s'est résumé. La Bible s'est dégonflée considérablement et ça a donné un truc complètement minable. Et ça, d'ailleurs, ça n'a jamais marché, son truc. Mais voilà, c'était la volonté de faire passer pour la raison quelque part. Mais Dieu dit, c'est de la dynamite, c'est de la puissance que Dieu a déployée par la résurrection. Donc, connaître cette résurrection, connaître cette puissance de vie, eh bien, ces quelques versets, hein, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, et Dieu, Jésus qui dit, je suis la résurrection de la vie, celui qui croit en moi vivra, et puis celui qui écoute ce que je dis, qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Voilà, il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. Donc, en fait, notre nouvelle naissance, le fait qu'on soit là, qu'on pourra adorer Dieu, c'est qu'on a été touché par la vie de ressuscité, du ressuscité qui est là aujourd'hui. Alors, je rappelle, est-ce que où on en est au niveau de la fête de Pâques pour notre vie aujourd'hui? Je ne sais pas combien d'années tu es au Seigneur, depuis combien de mois, depuis, voilà. Mais l'important, c'est est-ce que cette vie, tu es toujours au contact avec cette dynamisme-là, quelles que soient les circonstances, parce que ce n'est pas une affaire de circonstances. Donc voilà, voyez, et Jésus, cette Pâque, c'est intéressant de voir, David l'a souligné, vendredi saint, mort, dimanche, résurrection, nous sommes ici, là, au basculement entre les deux, et on voit que Dieu veut, il a englouti la mort dans la vie, et il a promis la vie en abondance. Donc le Seigneur veut rendre la vie à tout ce qui est mort. Et peut-être dans nos vies, peut-être dans nos familles, nous on a vécu un deuil là assez douloureux avec Katia, c'était pas évident la semaine dernière. Vraiment on a touché la mort qui est venue frapper de près, mais en même temps, il y a cette vie qui est là, et cette vie qui est là, elle est pour que on soit des porteurs de vie qui engendrions la vie. Alors connaître cette puissance de vie, c'est une puissance nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Mais j'aimerais souligner une chose. C'est que, et ça m'a travaillé pour cet après-midi, je me suis dit, mais la Pâque que fêtent les Juifs, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui sort d'Égypte. Donc le sang sur les linteaux, ça, c'était juste avant qu'ils prennent leur bâton et qu'ils quittent les maisons. Donc la Pâque, ce n'est pas seulement le sang sur les linteaux. Ça veut dire, ce n'est pas seulement je suis chrétien, j'ai le sang sur ma vie, je suis sauvé. Mais c'est je prends le bâton, je marche et je sors. Et je vais rentrer dans un héritage. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors, l'ange de la mort, ouais, chouette, oh, il est passé par-dessus. Super, je suis en vie. Quelques temps après, tu es devant la mer Rouge, toute l'armée des Égyptiens derrière. Tu étais bien avancé, je veux dire, quelque part. Hein. Le sang de Jésus, oui, il t'a sauvé, mais regarde où tu es là. Et Pâques, ça veut dire passage. Le Pâques, ça veut dire franchir des portes, ça veut dire défoncer des portes de façon miraculeuse, passer par où c'est impossible. C'est ça, la Pâques. Et donc, il y a peut-être des situations dans nos vies, en tant qu'assemblée, où ça semble impossible, où il semble ne pas y avoir de passage. Mais vivre la puissance de la résurrection, c'est croire qu'il y a un passage. Donc, c'est tout un peuple. Ce n'est pas seulement certains, vous remarquez, c'est tout le peuple qui est sorti. Donc, la Pâque, vous voyez, nous, on peut la voir, chrétien du XXIe siècle, c'est moi, c'est mon Christ, c'est mon ressuscité à moi, tout ça. Mais attendez, c'est tout un peuple. Dieu, il est venu pour sortir un peuple d'Égypte. Et pareil pour Jésus. Jésus, quand il est mort, il n'est pas mort pour des individus seulement, bien sûr, mais de son côté percé, c'est quoi qui est né? C'est l'Église. Et de la même façon que Ève est née du côté percé d'Adam, ça préfigure l'Église, faite de juifs et de non-juifs, qui naîtra du côté percé de Jésus. Donc là encore, ça parle d'un peuple. Il est mort et ressuscité pour créer un peuple nouveau. Nous ne sommes pas là avec notre croyance en la résurrection individuelle, mais nous faisons partie d'un peuple de Dieu. Et Éphésiens 2, il nous a ressuscités, oui mais ensemble, ensemble. Il nous a fait asseoir, oui mais ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à franchir ensemble des portes, à passer, à faire des passages là où il n'y en a pas. C'est ça la Pâque actualisée, réactualisée. Donc vous savez qu'il y a eu une rencontre, Manila a parlé des Watchmen, c'est ces rencontres internationales au niveau de leaders de toute nation qui se retrouvent. D'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion de participer, alors c'est en anglais, c'est parfois traduit, je ne sais pas, c'est traduit. Voilà. Mais là, par exemple, il y a cet Égyptien David Damon, il a parlé pour une parole prophétique pour 2023. Vous savez que l'année juive, eh bien, ça commençait là le 23 mars, le nouvel an biblique, si vous voulez. Et donc, je la cite parce que nous sommes en plein dans le cœur d'une parole qui parle d'un passage et de Pâques, justement. Le Seigneur a dit cette année 2023, en cette année 2023, alors que nous traversions le premier jour du nouvel an biblique, le 23 mars, que c'était une nouvelle saison de récolte après de nombreuses années de semis. Pas comme nous avons entendu une nouvelle saison à plusieurs reprises auparavant, non seulement dans la déclaration, mais cette Pâques 2023, c'est le temps de la possession, de franchir les portes, Ésaïe 62. Et Ésaïe 62 nous dit quoi ? Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière pour les peuples. Et donc, Apocalypse aussi 5 et 6, Dieu qui ouvre les sceaux, il est celui qui ouvre les portes, parce qu'il est digne, parce qu'il se révèle comme lion de Juda. Donc plus loin, il dit, nous n'avons plus besoin de pleurer sur les saisons et les moments de l'agneau tué dans nos propres vies, famille, ministère, nation, mais le temps maintenant est pour ces saisons et ces moments pour être possédé par la présence du lion de Juda alors que nous franchissons les portes, soulever la bannière, enlever les pierres. C'est le temps d'ouvrir les portes et de passer par des portes que le lion de Juda ouvre. Donc il y a quelque chose de... Vous voyez, il y a une marche qui est là. Ce n'est pas statique, ce n'est pas une foi statique. C'est une foi qui marche, une foi qui rentre dans son héritage. Et l'héritage, c'est tout un peuple. Alors, comment connaître cette puissance de la résurrection dans nos vies ? Et c'est là que le texte est intéressant, parce que le texte nous dit connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc là, nous avons une clé pour la connaissance de la puissance de la résurrection. Et en fait, cette clé, on a parlé de la foi, c'en est une, mais la clé, c'est que cette connaissance de la vie ne va pas sans une expérience de la mort. Donc, nous sommes ici, rien que ce verset-là, il brise tout ce qui est doctrine de la prospérité, de cette croix en Jésus, tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème, tu verras, tu vas pouvoir payer toutes tes factures. Non, non, il est dit, il y a parfois, il y a une communion quand on marche avec Dieu, à ses souffrances. Et donc, la puissance de la résurrection est encadrée par deux choses qu'on a lues, hein, c'est-à-dire connaître Christ, hein, et puis l'autre bout, c'est et la communion de ses souffrances. Donc, si nous voulons connaître la puissance de la résurrection, il nous faut aussi apprendre à connaître la communion de ses souffrances. Et lorsque Paul disait... de Corinthiens 4, hein, pour que la puissance de Christ repose sur lui, il se complaît dans les souffrances qu'il endure pour lui. C'est un peu bizarre, mais ça, c'est l'expérience de Paul. Et puis aussi, il dit dans 2 Corinthiens 12, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance, dynamis, hein, se manifeste pleinement. » Donc, il faut qu'il y ait une fragilité de quoi ? Ben, une fragilité de notre autosuffisance, une fragilité de notre indépendance, une fragilité de nos prisons, de notre égoïsme. Il faut que ça soit non seulement fragilisé, il faut que ça meure pour que la vie vienne. Et moi, je remarque une chose, c'est que là où la mort est passée, c'est là qu'il y a le plus de vie. Et si on faisait un petit témoignage de nos cheminements mutuels, c'est assez impressionnant, c'est souvent que j'ai vu ça, là où la mort, l'échec, la douleur, la confrontation à la maladie est passée et a été traversée, il y a une assurance, il y a une humilité, il y a du caractère de Christ particulier, il y a une vie qui est là, qui n'était pas avant. Donc vous voyez, il n'y a pas d'élévation sans abaissement. Et ça, c'est ce que nous apprend Philippiens 2, on peut le lire, versets 7 à 11. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Là aussi, donc, je vous ai envoyé cette semaine, vous savez qu'il y a eu à Arte une émission, Les évangéliques à la conquête du monde. Voilà. Alors, ils ont pris les trucs américains, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, là, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile, quoi. Et alors, du coup, c'est vrai, plusieurs ont dit, mais et vous savez, notre réseau d'église, réseau Nouvelle Connexion, il a été aussi accusé de nouvelle vague apostolique, nouvelle réformation, c'est qui ces gens, tout ça, qui se prennent pour faire les nouveaux croisés. Mais c'est une aberration. Et je vous ai donné les textes qui sont les textes de nos valeurs, La vision du royaume de Dieu, ce n'est pas pour l'imposer, mais c'est par le service, le don de soi, le sacrifice que l'on amène le royaume de Dieu. Ce n'est rien, il n'y a pas de croisade là-dedans. Mais on sent l'ennemi qui rage. Et pour tout ce qui est proclamation de la victoire de l'esprit sur tous les domaines de la société, c'est perçu comme les nouveaux croisés. Mais le moyen, c'est la mort, le service, et c'est très clair dans ce que je vous envoyais. Donc attention, il faut que vous ayez des arguments. Quand on est une église dont la mission, c'est entre autres manifester et incarner le royaume de Dieu, on peut nous bousculer avec cette enquête qui est là, on risque d'avoir des vagues. Il faut y répondre. Et donc, vous avez les arguments. Donc Jésus, je reviens à Philippiens 2, il s'est dépouillé, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là, c'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ Seigneur est la gloire de Dieu le Père. C'est là, et là, vous allez me dire, mais c'est Jésus, ce n'est pas nous. Oui, mais Jésus, c'est le chemin. Et partout où il est passé, on passe aussi. Et donc, le chemin d'humilité, eh bien, c'est aussi notre chemin. L'humilité, dit la Bible, précède la gloire. Vous savez, la promesse dans l'Apocalypse, je veux préparer une église glorieuse. Qu'est-ce qui précède la gloire ? L'humilité. Et donc, les chemins d'humilité sont des chemins qui sont incontournables. Alors, ça peut être des échecs, ça peut être des prières qui ne semblent pas exaucées. Et tout ça, c'est le chemin de l'humilité. Mais la victoire, c'est qu'on continue à garder ce dépôt de la dynamite et qu'on y croit encore et qu'on voit les choses qui avancent parce que Dieu veut faire reposer sur son Église un poids de gloire que n'importe quel égoïsme ou orgueil ne pourra pas contenir. Donc, Dieu prépare cet outre. Et nous avons dans Ésaïe 52, regardez, il est parlé du serviteur de l'Éternel, c'est Jésus. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup des peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche. C'est toujours étonnant dans les Écritures. On voit faiblesse, force, hein, mépris, élévation. Et voilà. Et dans le Nouveau Testament, la mort expiatoire de Jésus et son élévation sont toujours côte à côte. Pâques, c'est à la fois la mort et la résurrection. Là encore, on est dans un week-end qui est au cœur du message biblique. Jésus dit, quand Jésus sera élevé, j'attirerai tous les hommes à lui. Mais l'élévation, c'est quoi ? L'élévation, c'est la croix. Première élévation. Et c'est là qu'il est élevé devant les hommes. Mais cette croix, c'est qu'il est élevé aussi en majesté après la résurrection. Donc, voyez, on a dans Jean 12, lorsque Jésus dit « Père, délivre-nous de cette heure », il était troublé parce que entre le désir d'obéir à Dieu, le désir de voir la gloire de Dieu, et puis ce passage par lequel il devait passer, c'est étendu. Mais très vite, il a dit mais je suis là, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que il y a des moments dans notre vie où on regarde tout ce qu'on a vécu là, et est-ce qu'on prend conscience que peut-être c'est pour ça que je suis là ? Pourquoi tu es en Alsace ? Pourquoi tu es en France ? Pourquoi tu es dans cette assemblée ? Et prendre conscience, c'est pour ça que je suis là. Et Jésus, c'est à cause de cette conscience qu'il a pu traverser tout ce qu'il avait fait. Et maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur, et c'est là que j'aimerais vraiment un peu souligner beaucoup plus, c'est que la notion de résurrection, c'est l'inauguration de quelque chose de nouveau, du royaume de Dieu. Ça, c'est important. Vous voyez, la Pâque, ce n'est pas seulement un événement historique, c'est quelque chose du ciel, du royaume de Dieu qui touche la terre et qui reste sur la terre jusqu'à s'agrandir, jusqu'à prendre tout l'héritage, qui est l'héritage de Dieu, toutes les nations. Donc ça a commencé à Pâques. Le tombeau est vide, l'espérance c'est quand la pierre qui bouche ma vision de l'avenir, par exemple, eh ben, elle est roulée. C'est ça la résurrection. Alors, nous avons besoin de vivre cette puissance de résurrection. Donc, la résurrection, ce n'est pas pour nous volonté de s'échapper au monde. Hein, il est ressuscité, ben moi aussi un jour je ressusciterai, gloire à Dieu. Et puis mon but, c'est, voilà, je vais essayer de tenir tant bien que mal, et puis pour que Jésus me prenne et finisse cette terre, il y en a marre, quoi. C'est un peu ça. Selon les âges que nous avons, on peut très bien basculer dans ça. Maintenant, pépère, hein, quelques années à tirer, il est ressuscité, oui, eh ben, amen, et puis je vais le rejoindre, quoi. Mais la résurrection, mes amis, ce n'est pas ça. La résurrection, c'est recevoir une mission. C'est recevoir une mission sur la base, justement, de la seigneurie de Jésus après la Pâque. Il a été élevé, il a reçu toute autorité. C'est pourquoi, d'ailleurs, il dit, j'ai reçu toute autorité, Matthieu 28, c'est pourquoi faites des nations des disciples. Donc, en fait, le job, il commence là. Et c'est vraiment à l'échelle mondiale qu'il a commencé à Pâques. Donc, ce monde nouveau, révolutionnaire, hein, il a commencé à la résurrection de Jésus. C'est quoi ce monde nouveau? Ben, c'est le monde où Jésus règne après avoir emporté la victoire sur le péché et la mort. Et il a installé des avant-postes. Alors, tu es un avant-poste du royaume de Dieu dans un monde de ténèbres. Alors, le royaume de Dieu, il est déjà là, depuis la Pâque, mais il est encore à venir pleinement. Mais nous, l'Église, les œuvres que Dieu nous inspire, ce sont des avant-postes qui parlent de l'incursion du royaume de Dieu déjà maintenant dans différentes sphères de la société. Et c'est ce que Dieu veut faire avec la dynamisme qui est en nous. Cette dynamisme, ce n'est pas seulement pour qu'on s'éclate dans le sens propre du terme, mais c'est pour qu'on puisse être pertinent et dans ce monde qui nous entoure. Et là, j'aimerais, ce dont a besoin la création, ce n'est pas notre abandon, hein, c'est pas non plus mais c'est la rédemption, c'est la transformation, c'est le renouveau. Et cette issue est à la fois promise et garantie par la résurrection de Jésus. C'est ce que le monde entier attend. Et j'aimerais terminer quelques mots. Je me suis dit, mais j'aimerais donner un exemple pratique de la puissance de la résurrection dans un domaine dont on ne parle pas trop, qui est le domaine de l'art. Je me suis dit, quel est le rapport entre la résurrection de Jésus, moi je suis chrétien, je crois en la résurrection, et le domaine artistique. Et donc, déjà, la notion, vous savez, Dieu, la notion de beauté est importante. Je vous rappelle la phrase de Simone Veil, que j'aime beaucoup, la philosophe, là, qui disait « La beauté, c'est le piège dont Dieu se sert le plus fréquemment pour attirer les hommes à lui. » Et donc, la beauté, c'est important. La beauté, elle importe. Il y a un théologien qui disait, N.T. Wright, qui disait que la beauté, ça importe presque autant que la spiritualité et que la justice. Il le met au même rang. Parce que l'art a pour vocation de célébrer l'espérance, d'annoncer le nouveau, la réconciliation, la beauté, la justice, d'être une fenêtre du ciel. Alors, il y a un artiste japonais, vous allez chercher, il n'y en a pas beaucoup, mais il a écrit « L'art et la foi ». Alors, c'est en anglais, ce n'est pas traduit, mais il s'appelle Makoto Fujimura. Voilà, je parle avec l'accent. Donc, il dit que la beauté, c'est un cadeau de Dieu, le seul vrai artiste. Elle est une manifestation de sa grâce. Elle est relationnelle. Il écrit ceci. La Bible commence avec la création et finit par la nouvelle création. Et partout au milieu, Dieu le créateur, le grand artiste, il invite les créatures déchues, mais aussi les créatives, les artistes avec un petit a, à créer du shalom et de la paix face à la réalité, le point zéro qui nous entoure. Et donc, dans ce monde déchu, les artistes sont invités à créer avec beauté pour montrer que le monde n'est pas tel qu'il devrait être et annoncer la guérison, la réconciliation en attendant le monde nouveau à venir. Donc, les artistes sont des messagers du monde nouveau inauguré à la résurrection et qui arrive. Donc, il y a une autre phrase de N.T. Wright qui dit ceci. Notre tâche, notre vocation artistique, consiste à décrire le monde, non pas simplement comme il devrait être, ni même comme il l'est, mais comme par la seule grâce de Dieu, il sera un jour. Et donc, vous voyez tout le côté prophétique qu'il y a. Et donc, ça, c'est vrai pour tous les domaines. Donc, le Romains 8, qui nous, cette théologie de la création, qui soupire dans les douleurs de l'enfantement, qui attend la révélation des fils de Dieu, eh bien, un fils de Dieu, s'il est appelé dans les arts, il va révéler cette nouvelle création. Il va révéler cette nouvelle. La beauté du monde actuel, alors les restes de beauté, eh bien, quelqu'un disait, c'est comme une bague de fiançailles. Alors, les bagues de fiançailles, parfois, elles ne sont pas terribles. Hein, je ne veux pas faire un truc, mais ça dépend. L'argent que tu as cité étudiant, la bague de fiançailles, bon ben, voilà, ce n'est pas grand-chose. Mais, la beauté de la bague, ce n'est pas seulement la bague elle-même. Mais c'est que la fiancée, quand elle reçoit la bague, ça lui parle du mariage qui vient. Et donc, la bague, elle est belle dans ce qu'elle annonce. Eh bien, c'est pareil pour les œuvres préparées d'avance. C'est pareil pour les œuvres artistiques inspirées par la résurrection. Eh bien, ça annonce un monde nouveau. Et donc, ça, c'est nous sommes appelés à être des créateurs. Quand Béatrice fait ses dessins, d'ailleurs, aujourd'hui, tu n'en as pas fait. C'est pas bien. C'est pas bien, Béatrice. C'est pas bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez, nous sommes appelés à créer de la beauté. Et ceux qui ont vu les dessins de Béatrice, c'est toujours des couleurs. C'est toujours des couleurs. D'ailleurs, je suis allé voir les peintures de ce peintre japonais. Là, c'est absolument étonnant. Et alors, ce n'est pas le monde des bisounours aussi. Ouais, le monde nouveau, tout ça. Et le mal, on en fait quoi? Eh bien, pour trouver du sens dans la beauté du monde et la célébrer, cette beauté, il dit, nous produisons des œuvres qui sont elles-mêmes dotées de beauté, qui participent à notre vocation d'intendant de la création, et puis qui est alimentée aussi par, eh bien, nous voyons aussi le mal, nous voyons aussi le péché. Donc, c'est présent, c'est là, mais on n'en reste pas là dans l'œuvre qui annonce le monde nouveau, vous voyez. Donc, il parle d'une imagination, alors c'est intéressant là. Dieu nous a donné une imagination. Et l'imagination, elle dit, elle doit être alimentée par la réflexion et la prière au pied de la croix et devant le tombeau vide. Une imagination qui saura discerner les mystères du jugement divin sur le mal, la réaffirmation par Dieu au moyen de la résurrection de sa création dans toute sa bonté. Et il dit ceci, au mieux de sa forme, l'art attire notre attention sur la réalité actuelle du monde tout en désignant la réalité future. Lorsque la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers, cette espérance est toujours étonnante et ce seront certainement les artistes qui excelleront à transmettre autant d'espérance que d'étonnement. Et voyez, cette compréhension de la signification de la résurrection, de cette pénétration du monde nouveau dans le monde ancien, cette pénétration de la nouvelle création dans l'ancienne, eh bien, ça donne notre mission de chrétien. Ça nous propulse dans notre mission de chrétien. Alors vous allez me dire, on est toujours en tension, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde déchu, mais en même temps, nous sommes porteurs d'un monde nouveau. Nous sommes une nouvelle création. On le dit, on le chante, mais on fait partie de ce que Dieu a créé en toi, la nouvelle création qui est en toi. Elle fait partie de ce monde nouveau et tu es une tête de pont dans ce monde que Dieu prépare et va racheter. Ça, c'est Pâques. Ça, c'est l'influence de la résurrection. Et donc, je termine une citation que j'ai déjà donnée. Donc, notre mission, vous n'êtes pas ici, au 20e siècle, 21e siècle, en train de lubrifier l'axe des roues d'une machine qui est sur le point de tomber d'une falaise. Vous ne restaurez pas une grande œuvre d'art qui sera bientôt jetée au feu. Il y a des chrétiens qui croient ça. Hein, le monde, il sera roulé. Ah, plus rien, tout va exploser, ciao, fuyons. Ça, c'est une eschatologie, mais je ne la trouve nulle part dans les Écritures. Bon, ensuite, vous ne plantez pas des rosiers dans un jardin qui sera prochainement terrassé pour en faire un chantier de construction. Bien que vous ayez du mal à le comprendre et presque autant de mal à le croire qu'à accepter la résurrection elle-même, vous êtes en train de réaliser un travail qui fera partie un jour du monde nouveau de Dieu. Ça, chaque fois que tu aimes, chaque fois que tu encourages, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais une œuvre bonne inspirée par Dieu, tu annonces, et tu incarnes le monde nouveau. Et ça, la Bible dit, tout ce qui est fait avec l'amour, avec l'Esprit de Dieu, eh bien, quand le feu vient, ça va rester. Ça va rester. Parce que c'est comme de l'or. Ça va rester. Donc, nous sommes appelés à faire des œuvres, mais durables, inspirées par la résurrection de Jésus. Eh bien, Seigneur, merci pour cette Pâque 2023. Merci pour l'esprit dynamisme qui est en nous, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et merci, je te prie, de nous inspirer en tant qu'Église pour manifester cette vie du ressuscité. Nous allons déjà la manifester dans cette marche de la vie, justement, et même sans dire, sans chanter, sans proclamer peut-être, mais simplement en marchant et en prenant possession du terrain en tant que disciples de l'amour, nous changeons l'atmosphère là où nous marchons. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont peut-être découragés, ceux qui ont des choses qui semblent impossibles devant eux. Seigneur, merci pour les passages aujourd'hui, les murailles franchies, les portes qui étaient fermées, qui seront ouvertes parce que le roi de gloire est celui qui brise les portes des reins et les verrous de fer devant chaque situation, devant ton Église, devant tes enfants. Merci Seigneur, merci, tu nous embrases ce week-end, tu bénis nos familles, tu bénis ces rencontres familiales et chacun d'entre nous. Et tu nous visites à nouveau par la passion et par la dynamique et la dynamisme que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen. Amen.